Le rabbi nous explique qu'il y a deux façons de faire teshuva. La première façon, c'est d'examiner tous les actes, les aspects négatifs de notre comportement, de notre attitude, de notre service d'Hachem, d'examiner chaque détail et de s'attacher à réparer chacun de ces détails. Maintenant, le problème, c'est que quand on a cette démarche-là, alors on est limité par nos propres forces. C'est pour ça que le rabbi préconise que le fait qu'un juif il se plonge dans l'étude de la Torah et qu'il accomplit les commandements divins, il va être transporté comme dans un bain de lumière, la lumière d'Or Ein Sof, la lumière infinie de Dieu, la lumière de sa volonté, la lumière qui se révèle quand un juif il étudie la Torah, qui se révèle en son âme, ou bien quand il accomplit une mitzvah, qui se révèle aussi en lui-même. Cette lumière-là, elle a pour effet d'estomper, d'évaporer tous les aspects négatifs de sa personnalité. Cependant, le problème, c'est que c'est temporaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme il est plongé dans l'étude de la Torah, ou qu'il accomplit des mitzvot, alors tous les aspects négatifs, tous les détails de sa personnalité qu'il essaye de corriger, ils vont être comme évanouis pendant le temps pendant lequel il est occupé à l'étude ou à l'accomplissement des commandements divins. Mais ça n'enlève pas le fait que ces aspects négatifs, ils demeurent en lui-même. C'est pour ça que le rabbi nous enseigne que l'idéal, c'est de faire le lien entre ces deux niveaux. C'est-à-dire d'être plongé de manière constante dans les commandements divins, dans l'étude de la Torah, d'être imprégné de cette lumière-là, de se tremper dans ce bain de Kedusha, et en même temps, de s'attacher à chaque détail de notre personnalité. C'est-à-dire qu'on doit attirer la lumière illimitée de Dieu dans chaque détail de notre personnalité qu'on s'efforce de corriger. C'est-à-dire que c'est l'union, encore une fois, entre la lumière infinie de Dieu et les forces propres de l'homme, les limites de l'homme. C'est-à-dire que nos forces, bien qu'elles soient limitées, si on les associe à cette lumière infinie, alors on va corriger chacun de ces aspects négatifs et on va s'élever de prodige en prodige. Alors cette teshuvah-là, c'est la teshuvah supérieure. C'est la teshuvah qu'un juif il va accomplir et qui va lui permettre de ressentir de la simcha. Alors la simcha, quand le rabbi nous explique le sujet de la simcha, il nous dit que le problème d'une dépression, quand on peut connaître des moments difficiles, des moments où on n'a pas le moral, des moments où on connaît des faiblesses spirituelles, où on est dans une situation faible, cette dépression-là, elle résulte du fait qu'on est souvent trop tourné vers nous-mêmes, vers notre propre intérieur, notre fort intérieur, et qu'on n'est pas assez tourné vers le monde extérieur. C'est-à-dire que quand un juif il s'attache vraiment à appliquer les commandements divins, mais de manière à se tourner vers les autres et de se sortir de cette situation, c'est-à-dire de ne pas rester enfermé avec lui-même, c'est de là que va naître la simcha. Donc cette teshuvah, c'est la teshuvah supérieure, cette teshuvah, elle nous permet de réveiller ce niveau de la simcha. Et si on regarde dans le portrait, si on peut dire, de l'enchaînement des mondes, on se rend compte que le niveau le plus élevé de la couronne, la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes, cette couronne-là, c'est la couronne de Keter, elle représente deux choses. Elle représente le plaisir de Dieu et sa volonté. Donc cette, la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes, la lumière qui provient de cette couronne-là, de Keter, c'est le moment du Shabbat, c'est un moment qui est privilégié pour attirer cette lumière en nous-mêmes. Donc cette simcha-là, dont on parlait au début, elle provient précisément du plus haut niveau de Keter. C'est le niveau vraiment le plus élevé, puisqu'il représente le plaisir de Dieu. Il représente même l'origine même de la chassidoute. Le plaisir de Dieu, c'est la partie profonde de la Torah, c'est l'essence de la Torah, c'est la chassidoute. Et elle est liée donc avec, chez l'homme, elle représente l'essence de l'âme de l'homme, c'est-à-dire vraiment ce niveau de l'âme, le lien qui unit chaque juif avec son père qui est dans le ciel. Quand un juif il va réveiller ce lien, c'est précisément quand il va s'attacher à l'étude de la chassidoute, puisqu'elle va lui permettre de ressentir ce plaisir divin, elle va lui permettre de ressentir la connaissance même de la profondeur de la volonté de Dieu, et c'est ce qui va lui procurer du plaisir. Donc on voit que la simcha, ça représente vraiment le lien de l'essence de l'âme juive avec Dieu. La simcha la plus profonde, c'est comme le Rabbi Raatz nous l'enseigne, il dit que c'est quand est-ce qu'on est vraiment besimcha, quel est le plus grand plaisir qu'un juif peut connaître, c'est quand il étudie la partie profonde de la Torah. À partir de ce moment-là, il va ressentir cette simcha-là. Maintenant, cette simcha, elle découle, comment on parvient à cette simcha, c'est le niveau de Yehuda. Yehuda, ça représente Oda, la reconnaissance, Modéani, quand on reconnaît que tout provient de Dieu, que notre existence elle provient de Dieu, et quand on reconnaît, et surtout qu'on ressent un bitoul, qu'on est totalement soumis à la volonté de Dieu, et précisément dans notre cas, à la volonté profonde de Dieu. Quand on se soumet à la volonté profonde de Dieu en s'attachant à l'étude de la chassidoute, alors on va connaître une simcha qui est supérieure. Pourquoi on parle ici de Yehuda? Puisque c'est le sujet de notre paracha, Vaigash Elav Yehuda. Quand Yehuda, il s'est approché de Yosef. Alors, le rabbi nous enseigne que quand Yehuda, il s'est approché de Yosef, on voit ici qu'il s'approche de lui, c'est-à-dire qu'il est totalement soumis à Yosef d'un certain côté. Mais de l'autre côté, le rabbi écrit dans le Devar Malchut qu'il va révéler une très grande force. C'est-à-dire qu'il est nullement impressionné par le fait que Yosef, c'est le roi d'Égypte. Et il va vraiment imposer sa volonté, il va imposer sa personnalité, il va se situer au-dessus même de ce monde. C'est ça le point ici du Devar Malchut. Qu'est-ce que ça signifie, se situer au-dessus de ce monde? C'est à partir du moment où un juif il va réveiller le lien qui unit son âme à Dieu, c'est l'essence de l'âme, donc comme on l'a dit, par le bitoul, il va nullement être impressionné par ce monde-là. Donc le rabbi dans le Devar Malchut nous indique, il mentionne aussi la personnalité de Mordechai à Yehudi, au moment de Purim, qui lui aussi ne se prosternait pas devant Aman, donc il nous montre aussi, à travers le personnage, à travers la grandeur de Mordechai à Yehudi, l'importance de réveiller nos forces les plus profondes de manière à ne jamais nous laisser impressionner par ce monde. Dans un autre Devar Malchut, le rabbi il relevait aussi ce point-là, et il nous disait que quand Dieu, avant de créer le monde, il a demandé conseil aux âmes des tzadikim, et alors de là, on avait compris que le tzaddik, l'âme juive, l'âme d'Israël, elle précède même la création du monde. C'est-à-dire que si on révèle ce niveau-là, le lien de notre âme avec Dieu, on va se situer à un niveau qui va être au-delà de ce monde. Maintenant, le point qui est important ici, c'est de comprendre que, en même temps, on doit aussi se soumettre d'une certaine manière à l'usage, aux lois, aux coutumes de ce monde. Et le fait de se soumettre à ces lois-là, à ces usages-là, alors ça nous permet d'établir un lien entre juste le fait de se soumettre à ce monde, c'est-à-dire d'obéir aux lois de ce monde, mais en même temps d'attirer une lumière qui est infinie, de révéler une attitude qui est au-delà de ce monde, et c'est précisément en agissant ainsi qu'on va élever ce monde. On parle toujours de ce principe-là aussi dans le Devar Malchut, quand on dit « celui qui travaille pendant la semaine, il mange le jour du Shabbat ». Celui qui travaille au moyen des forces de son intellect, donc les forces de son intellect, elles représentent la nature de son âme, elles représentent ce monde matériel dans lequel on vit. Donc on obéit aux lois de ce monde, c'est-à-dire qu'on va travailler avec les forces de notre intellect, on va travailler dans un monde matériel, on va travailler sur la matière elle-même, mais en même temps, si on travaille vraiment de toutes nos forces, si on pousse nos limites, vraiment au plus haut point, alors on mange le jour du Shabbat. Celui qui travaille la semaine, il mange le jour du Shabbat. Ça signifie celui qui travaille la semaine au moyen de ses propres forces, il va attirer des forces qui sont au-delà de lui-même, au-delà de l'intellect. C'est l'attitude de Yehuda, c'est aussi l'attitude de Mordechai Yehudi. Et donc c'est de cette manière qu'on réalise l'union entre la partie révélée de notre âme, les forces de la partie révélée de notre âme, avec les forces les plus profondes de notre âme. En l'occurrence ici, le niveau de Yechida qui correspond à la Sephira de Keter. Dans le Torah Or, l'Admor HaZaken, sur la Parasha Vaïgash, il va expliquer aussi cette rencontre entre Yehuda et Yosef. Il explique que Yehuda, il représente le niveau du Bitoul, donc il représente dans le domaine, l'inanimé, la pierre inanimée, la terre inanimée, c'est-à-dire la terre sur laquelle on marche et qui ne se plaint jamais, ça représente le niveau de Yehuda. C'est la totale soumission par rapport à Dieu. Cette terre-là qui est sur laquelle on marche et qui ne se plaint jamais, elle représente vraiment cet état, la soumission la plus totale, l'humilité la plus parfaite, la reconnaissance de Dieu, au point de ne rien dire. C'est-à-dire, on voit ici que la terre, elle ne se plaint pas, elle ne dit rien, bien qu'on marche dessus, mais on dit que dans les temps futurs, la terre, elle va se mettre à parler, puisqu'il est écrit que les murs de la maison, ils vont crier, les poutres qui sont dans le toit, ils vont parler, et les murs de la maison, ils vont leur répondre. Ça veut dire que là, il y a un niveau de l'inanimé qu'on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, mais dans les temps futurs, ce niveau, il va se dévoiler. La pierre, elle va se mettre à parler. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est exactement le sujet du Torah Or de l'Admor HaZaken, et c'est un sujet qui revient tout le temps dans la Chassidoute, puisque souvent on parle de ce principe-là, quand le Rabbi il déclare, il nous dit que dans les temps futurs, l'âme sera nourrie par le corps. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie que l'âme qui est très élevée, puisque c'est Chelek Elokam Imal Mamash, elle va être nourrie par le corps qui est lui-même une matière inanimée? C'est le corps lui-même, c'est simplement le réceptacle de l'âme. Comment se fait-il que dans les temps futurs, l'âme va être précisément nourrie par le corps? Eh bien, c'est ce principe-là. C'est le principe, ça, c'est l'origine de cet enseignement-là. On le trouve dans notre paracha Vaïgash. Vaïgash et Lav Yehuda, et dans le Torah Or de l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken nous explique que, pour le moment, d'après la descente de la lumière dans tous les mondes, de l'enchaînement des mondes, on voit qu'il y a le Seder Ishtashelut. Donc on voit que il y a cette lumière-là divine, elle va descendre de monde en monde jusqu'à s'habiller et dans la terre, jusqu'à s'habiller même dans l'âme de l'homme. L'âme, tout l'homme, finalement, il ne reçoit qu'un simple reflet de cette lumière infinie. En même temps, on voit que cette lumière infinie, elle s'habille aussi dans la terre, puisque la terre, bien qu'elle soit inanimée, elle possède cette force de faire pousser des fruits à l'infini. Mais l'enseignement ici qui est donné, c'est de comprendre que dans les temps futurs, comme il est écrit, une épouse virtuelle, une épouse Ishetraïl, une épouse qui a de la vertu, c'est une épouse vertueuse, pardon. Voilà, une épouse vertueuse devient la couronne de son mari. L'épouse vertueuse, ça représente le keli, ça représente le réceptacle. Pour le moment, une femme, elle va recevoir l'influence et la lumière de son mari. Donc, le mari représente la lumière, or, et son épouse, elle représente le keli, le réceptacle. Donc, on voit que, pour le moment, dans le Seder Ishtashelut, on voit que l'épouse, elle va recevoir toute l'influence de son mari. Donc, dans les temps futurs, quand l'épouse vertueuse, c'est-à-dire celle qui se sera vraiment attachée à appliquer les commandements divins, à l'exemple de Sarah, dont on dit que l'âme, elle a puisé sa lumière de Or en Sof, elle était totalement liée à Dieu, elle faisait la volonté de Dieu de manière parfaite, cette épouse vertueuse, elle va devenir la couronne de son mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est exactement le principe qui est expliqué dans la paracha, dans le Torah de la paracha Vaïgash, quand l'Admor HaZaken nous dit qu'aujourd'hui, on voit que Yehuda qui représente le réceptacle, le Keli, puisque lui-même il est Batel, lui-même il va voir Yosef et il se plie devant Yosef, il reconnaît qu'il est le roi, et Yosef lui-même il représente le Tzomeach, c'est-à-dire la plante, l'arbre qui va pousser. C'est-à-dire qui, comme le tzaddik, on dit que le tzaddik il est comparé à un cèdre, puisqu'il s'élève toujours de niveau en niveau. Donc, Yehuda, il représente le bitoul, il représente la soumission, il représente la matière inanimée, le domaine. Et Yosef, il représente le tzoméach, donc il représente les midot, puisque les midot, ça représente l'amour et la crainte de Dieu, ça s'élève toujours de niveau en niveau, ça grandit comme un arbre. Donc pour le moment, dans le monde tel qu'il a été conçu, et dans notre service divin, ce qui prédomine, c'est justement le travail des midot, l'amour d'Hachem, la crainte d'Hachem. Un juif, il doit travailler pour grandir toujours son amour pour Dieu, pour grandir sa crainte de Dieu. Et Yehuda, qui représente le bitoul, il vient en second plan. Alors que dans les temps futurs, quand on dit qu'une épouse vertueuse, elle va devenir la couronne de son mari, ça veut dire que Yehuda, il va s'élever même au-dessus de Yosef, puisque le Machiar lui-même, c'est David, c'est de la tribu de Yehuda, donc il va être même au-delà, comme il écrit la Noire d'Aken, au-delà de Yosef et au-delà de Yehuda. Donc on voit, on peut donner aussi l'exemple de la Lune, elle reçoit aujourd'hui sa lumière du Soleil, mais dans les temps futurs, elle va s'élever au-dessus du Soleil, c'est-à-dire qu'elle va vraiment avoir elle-même, elle va retrouver sa taille originelle. Donc on voit que celui qui est vraiment soumis à Dieu, celui-là, dans les temps futurs, il va vraiment s'élever très très haut. Et c'est le niveau donc de Yehuda, c'est le niveau du Machiar. Alors on pourrait ici donner l'exemple, plusieurs exemples. On pourrait par exemple donner celui de Rabbi Akiva, puisqu'il est écrit dans le traité Menachot que un jour, Moshe Rabbeinu, il a trouvé Hachem en train de dessiner des tagim sur les lettres de la Torah. Il lui a demandé qu'est-ce que ça signifiait. Et petit à petit, au cours de la discussion, Hachem lui a dit « Je vais te montrer un sage qui va tirer des centaines de halakhot à partir de ces petits tagim. » Et il a transporté donc dans le temps et Moshe Rabbeinu s'est retrouvé dans un cours de Torah de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, qui lui-même et vient bien après Moshe. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe, il comprenait même pas le cours de Rabbi Akiva. Donc, il est remonté au ciel, il a demandé à Hachem, comment ça se fait que tu as donné la Torah, tu me l'as donné à moi, pourquoi tu l'as pas donné à cet homme-là, Rabbi Akiva, qui est beaucoup plus élevé que moi? Et Dieu lui a répondu, tais-toi, ce sont mes desseins. Qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire? On voit que Rabbi Akiva, bien qu'il n'ait pas reçu la Torah, bien que c'est d'une certaine façon un élève de Moshe, puisqu'il vient bien après Moshe, on voit qu'il s'élève au-dessus de Moshe à un certain moment. Donc on voit que même le nom d'Akiva, Akiva ça représente Ekev, Ekev c'est la partie la plus basse du corps, c'est comparable justement à comme on l'a dit, c'est comparable à Yehuda, qui représente le niveau inanimé, c'est comparable à la lune aussi, qui n'a pas de lumière qui lui est propre, et toute sa lumière elle reçoit du soleil, c'est comparable à la séphira de Malchut, qui reçoit toutes ses séphirotes, toutes ses lumières, pardon, des séphirotes supérieures, et qui lui-même ne possède pas de propre lumière, et c'est comparable à cette épouse vertueuse qui reçoit son influence de son mari. Et pourtant, aujourd'hui, les choses sont ainsi, mais dans les temps futurs, on dit que donc l'épouse vertueuse, elle va s'élever au-dessus, elle va devenir la couronne de son mari. De la même façon, on voit que Rabbi Akiva, il s'est élevé au-dessus de Moshe, comme c'est écrit dans la Gemara, puisqu'il a enseigné la Torah à Moshe, alors que lui-même, c'était au départ l'élève. Et donc, comme la lune qui va s'élever, qui va devenir aussi grande que le soleil, donc on voit que les niveaux le plus bas, en fait, il a une origine très élevée. C'est un enseignement qui revient tout le temps dans la Chassidoute. De la même façon, le corps, qui est lui-même plus bas que l'âme dans le Seder et Shtachlout, dans les temps futurs, c'est lui-même qui va nourrir l'âme. Alors, on pourrait finir ici par donner un exemple qui nous parle, puisque c'est celui de la Noura Zaken, puisqu'on approche de Kav Dalet Tevet, et de se rappeler deux petites histoires sur la Noura Zaken. La première, c'est déjà de se rappeler que l'Admor HaZaken, on raconte que quand il assistait au cours du Maguide de Maizricht, il ne prononçait pas un seul mot. Il restait silencieux, il écoutait. Il écoutait le cours du Maguide. Ça, c'est l'attitude de l'Admor HaZaken. Le deuxième enseignement qu'on pourrait donner ici, à partir d'une histoire de l'Admor HaZaken, c'est qu'on raconte que l'Admor HaZaken, quand il était parmi les élèves du Maguide, c'était le plus jeune de tous les élèves. Et il avait pour habitude de toujours de faire les commissions pour chacun. Si quelqu'un il avait besoin d'un lacet ou il avait besoin de quelque chose et qu'il devait aller au village pour acheter des petites marchandises, des petites choses pour les élèves du Maguid, c'était toujours l'Anmorazaken qui était désigné puisque c'était le plus jeune. Un jour, le Maguid, il a donné un cours de chassidoute et il a enseigné quelque chose que les élèves n'ont pas compris. Alors ils se sont tournés vers le Maguid, ils ont demandé, pouvez-vous nous expliquer à nouveau ce que vous avez dit au chiour, on n'arrive pas à comprendre. Et au lieu de leur expliquer, le Maguid de Mezrich a dit, écoutez, si vous voulez vraiment bien comprendre ce point dont j'ai parlé au chiour, il faut demander à Zalman, Shimon Zalman, donc l'Anmorazaken, il va vous expliquer. Alors les élèves, ils étaient très surpris, comment le plus jeune d'entre nous, c'est lui qui va nous expliquer la profondeur de la Torah. Malgré tout, comme ça venait du Maguid, ils sont allés voir l'Anmorazaken et ils lui ont demandé de leur expliquer. Et l'Anmorazaken, il était très embêté parce que d'un côté, il devait obéir au Maguid de Mezrich puisque c'était la volonté de son maître, ce qu'il avait demandé que l'Anmorazaken il devait expliquer, donc il devait obéir à l'ordre de son maître. Mais de l'autre côté, il était embêté parce qu'il se disait comment je vais faire maintenant ? Parce que si jamais je leur explique cet enseignement-là, alors ils vont me considérer comme leur maître, puisque je les aurais dépassés dans la compréhension. Et moi, s'ils me considèrent comme un maître, je ne pourrais plus aller faire pour eux les petites courses qu'ils me demandaient de faire jusqu'à présent. Donc, d'un côté, vous voyez, c'est la force de l'Anmorazaken, la personnalité de l'Anmorazaken, c'est toujours d'unir deux contraires, toujours d'unir deux choses qui sont opposées. Aussi bien, il se demandait comment il pouvait faire pour obéir à son maître, et en même temps pour garder cette mitzvah-là de servir les élèves du Maguid et d'être vraiment proche d'eux et de leur témoigner tout l'Ahavat Israël qu'ils pouvaient en les servant. Donc cette idée-là de réunir les contraires, c'est ce dont on a parlé au départ, quand on a dit que c'est vraiment par le fait de s'attacher à ce monde matériel d'une manière classique, si on peut dire, qu'on parvient ensuite à s'élever au-dessus du monde. Et ça, c'est vraiment l'enseignement du Dvar Malchut. Dans le Dvar Malchut, le Rabbi, il nous parle de Mordechai et de Yehuda, et il met le point justement sur ce but-là, qu'un juif, il doit parvenir à s'élever au-delà de ce monde, tout en restant dans ce monde, tout en agissant dans ce monde, mais en même temps, en dévoilant la lumière infinie de Dieu dans ce monde. Ça, c'est le niveau de l'essence divine, car elle seule a le pouvoir de transformer l'obscurité en lumière. Mais Bezrat Hashem, que ces enseignements-là, ils s'accordent avec le désir de chacun de faire tout ce qui est en son pouvoir pour provoquer la venue, le dévoilement du Mashiach, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu dès à présent. Shabbat Shalom, Umevoar.